Nous allons en effet ouvrir la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Pour la raison suivante, c'est que les hommes qui ont rédigé ce texte ont fait sous l'inspiration divine. Ils n'ont pas élucubré en leur esprit, apporté le produit de leur réflexion personnelle, mais ils ont reçu une révélation, une communication de la vérité qui vient de Dieu seul. En quelque sorte, ils ont été, on peut le dire comme ça, les secrétaires de Dieu, de telle sorte que ce que nous lisons, ce n'est pas leur parole, mais c'est la parole de Dieu. Et dans toutes nos réunions, eh bien, nous prenons soin d'ouvrir la Bible et de considérer les enseignements qu'elle nous transmet, qu'elle nous donne. Je vous propose cet après-midi de faire une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, et au verset 1er, il y a là le récit d'un miracle, car il s'agit bien d'un miracle, que Jésus a réalisé en faveur d'un homme qui en avait bien besoin. Dieu ne fait pas des miracles pour impressionner la galerie. Vous voyez, ce n'est pas un amuseur public, ce n'est pas un démonstrateur de faits étonnants. Non, il agit toujours pour notre bien le meilleur. Il est écrit comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac de barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Voilà, quelle belle conclusion. Il est dit à propos de ces hommes, ils laissèrent tout et le suivirent. Et c'est ainsi que Pierre, son frère André, et leurs associés, Jacques, son frère Jean, devinrent des disciples et plus tard des apôtres du Seigneur Jésus. Alors vous ne serez peut-être pas à la sortie de cette réunion des apôtres du Christ. Mais ce que Dieu voudrait que vous soyez en sortant de ce lieu, c'est que vous deveniez des disciples de Jésus. C'est-à-dire des gens qui le suivent. Qu'est-ce que ça veut dire, suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est, comme nous l'avons chanté d'ailleurs, dans ce dernier chant, eh bien, lui apporter notre vie tout entière, nous soumettre humblement à son autorité, qui n'est pas une autorité tyrannique, mais une autorité bienveillante. Alléluia! Car la volonté de Dieu pour notre vie, nous dit l'Écriture, Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Soyez-en convaincus, Dieu veut pour vous le meilleur. Amen. Attention, le meilleur, ça ne veut pas dire le plus facile, mais c'est le meilleur. C'est le meilleur. Alors, comment tout cela a-t-il commencé? Jésus ne bénéficiait pas des produits technologiques dont nous disposons aujourd'hui. Vous voyez, là j'ai un petit micro-cravate qui me permet, sans vous hurler dans les oreilles, de transmettre ma voix. Jésus n'avait pas ça à sa disposition. Mais il connaissait, parce qu'il connaît toutes choses, il est le Fils de Dieu, il connaissait les règles de l'acoustique. Et pourquoi il est monté sur cette barque? Vous voyez le tableau, Jésus dans la barque, il s'éloigne un petit peu de terre, la foule est massée sur le rivage, et il prêche l'évangile. Et Jésus savait que l'eau est porteuse des sons. Vous voyez, elle transmet les sons. Ce qui fait, ça faisait un petit peu rôle de haut-parleur, d'enceinte. Et c'est pour ça que Jésus a pris cette position. Et puis, lorsqu'il a eu terminé son discours, sa prédication, eh bien, les gens se sont dispersés, voilà, la réunion était terminée. Et il est dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Pierre, Simon Pierre, parce que Pierre c'était son surnom, Simon c'était son nom officiel. Pierre, appelons-le comme ça, à ce moment-là était en situation d'échec. On a tous connu dans notre vie des moments d'échec. Oui ou non? On a pu échouer dans le domaine des études. Voilà, j'ai passé un examen et recalé. Hein? On a pu échouer quand on a passé, je ne sais pas moi, le permis de conduire. Ça m'est arrivé. Hein? Enfin, j'ai fini par l'obtenir, mais... D'ailleurs, j'ai pris une savonnée magistrale par ma mère, qui n'était pas contente du tout, mais ça, c'est une autre histoire. On a pu connaître l'échec dans le domaine affectif, sentimental. Voilà, on a aimé un homme, une femme, et puis, alors qu'on espérait monts et merveilles, eh bien, tout s'est écroulé comme un château de cartes. On peut échouer dans le domaine professionnel. On a pensé pouvoir embrasser cette carrière, cette profession, et puis ça n'a pas marché. On avait bâti des projets faramineux et c'est parti en capilotade. Ça s'est écroulé lamentablement. Vous savez, l'échec n'est pas forcément définitif. Et il peut même être entre les mains du Seigneur un moyen, un outil, si vous voulez, dont Dieu va se révéler, que Dieu va choisir, pour se faire connaître à nous, pour se révéler. Parce que l'être humain est ainsi fait que, généralement, quand tout va bien, eh bien, tout va bien. Et on n'a besoin de personne. Et on estime qu'on a, mais alors, là, surtout pas besoin de Dieu, quand ça va bien. C'est pas vrai? Oui, c'est souvent comme ça. Mais quand on est au bout du rouleau, quand il n'y a rien qui a marché, quand tout s'écroule lamentablement, qu'on est dans une situation pas possible, et que Dieu vient vers nous, que sa parole nous est annoncée, que quelqu'un nous rend témoignage de sa grâce, alors on est mieux disposé à tendre une oreille favorable. Et c'était le cas de Pierre, vous voyez? Parce qu'il était en situation d'échec. Il était marin-pêcheur de son état. Ce n'était pas son passe-temps, c'était son métier, sa profession. Il était marié, il y avait même la belle-mère à la maison, la Bible nous le dit. On peut supposer qu'il avait des enfants. Et à cette époque, généralement, dans les familles, il y avait une ribambelle d'enfants. Donc il fallait faire bouillir la marmite. Et c'était son gagne-pain, ça. Et voilà qu'il est obligé de dire à Jésus, tu sais, nous avons travaillé toute la nuit, on n'a pas été paresseux, d'habitude la nuit c'est fait pour dormir, eux, ils avaient travaillé, sans rien prendre. Voilà, alors, on peut imaginer tout ce qui pouvait se passer dans sa tête. La déception, la frustration, l'inquiétude aussi. Comment je vais nourrir ma famille? Comment je vais nourrir mes gosses? Je peux pas ramener aujourd'hui de ma paye puisque j'ai rien pris dans mes filets. La frustration, l'amertume, sentiment d'injustice. Pourquoi moi j'ai échoué et d'autres à côté ils ont réussi? La lassitude, la nuit, l'envie de tout abandonner, etc., etc. C'est ce que produit l'échec. Mais il y a un point positif, c'est que là, Jésus était, où c'est qu'il était? Où est-ce qu'il était, Jésus? Il était dans la barque. Il était dans la barque. Et parce que tout est parti de là, Jésus était dans la barque, eh bien tout a changé. Vous voyez? Quand Jésus est dans notre barque, c'est-à-dire dans notre vie, tout peut changer. Alléluia. Est-ce que Jésus est dans votre barque? Parce que je suppose que au moment où Jésus s'apprêtait à monter dans la barque, si Pierre y avait dit non, pas question, ben Jésus se serait retiré. Vous savez, il y a un texte de l'Écriture où il dit que un jour, alors qu'il venait de faire un miracle, c'est paradoxal, on l'a chassé. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il est parti. Il ne s'est pas imposé. Il n'a pas contraint les gens d'accepter sa présence. Non, il est parti, il s'est retiré. Et quand on estime ne pas avoir besoin de lui, Jésus se retire. Mais là, si Jésus était dans la barque, c'est parce qu'il a senti qu'il était le bienvenu, que Pierre était disposé à l'accueillir dans sa barque. Et je crois qu'il n'a pas eu à le regretter, hein, par la suite. Quand Jésus est là dans notre barque, tout peut changer. Alors, voilà, cette parole de Jésus, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. C'était un ordre, mais en même temps, une promesse. Une promesse. Jetez vos filets pour pêcher. C'est-à-dire, pour réussir là où vous avez échoué jusqu'ici. Pour pêcher. Là, vous avez échoué, mais maintenant, vous allez réussir. C'est un défi lancé à la fois. Pourquoi? Parce que, humainement parlant, c'était pas possible qu'il y ait des poissons à ce moment-là, à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que les pêcheurs vous diront que les poissons, en mer, ils cherchent généralement la fraîcheur. Et la nuit, ils remontent à la surface parce que l'eau est plus fraîche. C'est pour ça que les pêcheurs pêchent de nuit. Et lorsque le jour paraît et que le soleil commence à chauffer les eaux de surface, les poissons s'enfoncent parce qu'ils vont chercher la fraîcheur dans les profondeurs. Donc là, au milieu de la journée, c'était pas possible qu'il y ait du poisson. Et Jésus venait de dire « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher ». C'était donc un défi lancé à la fois. Voyez? Un défi lancé à la fois. Ça n'était pas possible, mais pour Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible. Tout est possible. Il est le Tout-Puissant, il n'est limité par aucune circonstance contraire. Rien n'est impossible à Dieu, nous dit la Bible avec vérité. Face à la maladie la plus incurable, Dieu peut guérir. Face au moral le plus ébranlé, Dieu peut communiquer la paix, la sérénité, le calme intérieur et même changer la tristesse la plus sombre en joie la plus débordante. Face au désespoir le plus grand, il peut consoler. Face à la situation familiale qui se disloque, il peut restaurer, il peut ressusciter l'amour, l'affection, l'harmonie, renouveler la confiance mutuelle. Face aux addictions les plus tenaces, il peut délivrer. Tout est possible à Dieu. Vous le croyez? Mais la Bible ajoute quelque chose. Tout est possible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Rien ne se passe quand on reste incrédule, sceptique, raisonnant, plein de doutes. Voyez ? L'Écriture dit qu'il nous faut demander avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité de côté et d'autre. Et le texte ajoute qu'un tel homme, celui qui doute, ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Cet après-midi, chassez le doute de votre cœur. Si tu crois, nous dit la parole, tu verras la gloire de Dieu. D'habitude, les hommes raisonnent à l'inverse, en disant, si je vois, je croirai. Hein? Je crois que ce que je vois. Mais Dieu nous met au défi en disant, si tu crois, eh bien tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle consiste à manifester son pouvoir souverain pour venir à notre secours. Et Pierre a manifesté ici la foi. Je ne sais pas s'il en avait beaucoup, mais il en a eu un petit peu. Et l'Écriture dit qu'un petit peu de foi, comme un grain de sénévé, c'est, paraît-il, la plus petite de toutes les semences qui se trouvent en Israël, un petit peu de foi suffit pour déplacer les montagnes, suffit pour rendre possible ce qui ne l'a pas été jusque-là. Et Pierre dit, Seigneur, c'est vrai, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est l'échec sur toute la ligne. On est obligé de faire ce constat déplorable. Mais il ajoute, sur ta parole, je jetterai le filet. Il n'a pas dit, ça marchera jamais ton affaire, Seigneur. Tu comprends rien. Toi, tu es charpentier de métier, moi je suis marin pêcheur. Et je sais pertinemment qu'à cette heure du jour du poisson, là, il n'y en a pas. Ça ne marchera jamais. Puis, si ça n'a pas marché jusqu'à maintenant, ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Mais il n'a pas raisonné de cette manière, parce que sa foi s'appuyait sur une base solide. Vous voyez, ce n'était pas un optimisme démesuré. Non, sa foi s'appuyait sur une base solide. La parole de Jésus qui venait de lui dire « Avance en plein nom et jetez vos filets pour pêcher ». Il a mis de côté l'évidence des sens. Il a mis de côté la logique humaine pour se confier dans la parole de Jésus, la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est fiable. Amen. Elle est infaillible, elle est sûre, elle est certaine parce que c'est la parole de Dieu. Et l'Écriture dit que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Ben, cet après-midi, faites de même. Croyez à la parole de Dieu qui contient toutes sortes de promesses pour votre guérison, pour votre pardon si besoin est, pour votre restauration intérieure, pour votre délivrance, pour votre consolation. La foi ici fut suivie d'un effet, d'un résultat extraordinaire. On peut dire au-delà de toute espérance. De mémoire de pêcheur, on n'avait jamais vu ça, dites. Non seulement les filets ont été remplis, mais la barque, elle était envahie par les poissons. On ne savait plus, on ne savait pas où les mettre. De telle sorte qu'il a même fallu faire appel aux collègues. Et le texte nous dit que les deux barques étaient remplies de poissons au point même qu'elles enfonçaient. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur peut faire par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Nos plus grandes espérances peuvent être dépassées. Nos plus grands espoirs peuvent être non seulement comblés, satisfaits, mais dépassés. Dieu peut aller au-delà de ce que nous osons croire, et ce fut le cas ici. Oui. Mes amis, Dieu tient en réserve pour vous, pour chacun de nous, comme il le fit pour Pierre, sa bénédiction abondante. Quelle que soit la situation délicate à laquelle vous êtes confrontés, il peut vous accorder un authentique miracle. Croyez, croyons et recevons-le. Alléluia. Il ne faut pas oublier ça, que notre Dieu, c'est le Dieu des miracles. Et les miracles, ils ne sont pas que dans les évangiles, ils sont aussi dans la vie des croyants. Mais le résultat le plus remarquable dans cette histoire, c'est ce qui a suivi cette pêche miraculeuse. Vous voyez, Jésus n'a pas dit, Pierre n'a pas dit à Jésus, écoute, c'est formidable, tu as une capacité que je ne soupçonnais pas, toi et moi, on va faire des affaires, hein? Tu vas devenir mon associé et on va monter tous les deux une entreprise de pêche. Toi, tu me diras où est le poisson, moi, je jetterai le filet et on va voir ce qu'on va voir. Non, la parole de Dieu nous dit que là, dans la barque, Pierre, s'est jeté aux pieds du Seigneur. Il est tombé en quelque sorte devant lui, à ses pieds, en lui disant, « Retire-toi de moi, car je suis un homme pêcheur. » Il ne parlait pas là de pêcheur de poissons, un homme pêcheur, c'est-à-dire un homme qui a moralement failli, un homme qui a désobéi au commandement divin, un homme dont la nature profonde, parce qu'il est justement un homme, le conduit si souvent à faire le mal. Il prend conscience qu'il est un pêcheur, qu'il a offensé Dieu, il est convaincu de péché et il réalise qu'il est en face de celui qui est Dieu fait homme. Vous vous rendez compte, dans la barque, là, il a Dieu fait homme devant lui, le Christ, le Seigneur. Et il est tellement bouleversé par ce fait qu'il tombe à genoux et lui dit « Retire-toi de moi ». Le texte nous dit qu'ils étaient, lui et ses collègues, remplis d'épouvante. Vous savez ce que c'est l'épouvante ? Ce n'est pas une peur ordinaire. Hein, des fois, on a une petite crainte, une petite réserve intérieure. Hein, on est un peu inquiété, soucieux. Mais l'épouvante, c'est-à-dire une frayeur extraordinaire. Excusez-moi l'expression que je vais employer, une trouille pas possible. Et il dit, Jésus, retire-toi de moi, je ne peux pas supporter ta présence. Toi, tu es saint, tu es parfait, tu es Dieu qui s'est fait homme. Et moi, je suis un homme pécheur. Et je ne mérite de ta part rien d'autre que sur le champ, la condamnation à cause de mon péché. Vous savez, il existe une crainte salutaire. Il y a des moments où il n'y a que les sots, les stupides qui n'ont pas peur. C'est pas vrai? La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. Parce que quand on est saisi de cette crainte qui a animé Pierre, ça nous amène à poser des questions essentielles quant à notre sort éternel. Vous voyez ? On réalise que pécheurs nous sommes, que le péché entraîne notre culpabilité, que la culpabilité entraîne, si nous en restons là, le jugement de Dieu, et que le jugement que Dieu prononcera sur nous, si nous demeurons dans notre condition, dans notre situation de pécheur, eh bien, aura pour effet de nous condamner éternellement. Mais alors que Pierre était rempli d'épouvante, il devait trembler de tous ses membres, une autre parole de Jésus a été prononcée. Vous avez remarqué que dans le texte, Jésus n'a pas beaucoup parlé. Il a parlé deux fois. D'abord pour lui dire « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et la deuxième fois pour lui dire « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'homme. » Ne crains pas. Pourquoi Jésus pouvait-il dire à cet homme qui était saisi de confusion « Ne crains pas. » Parce que pour les hommes pêcheurs comme Pierre et les femmes pécheresses aussi, quelque chose s'est passé, mes amis. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ceci, là. La croix. Et quand je parle de la croix, je ne parle pas de l'objet en tant que tel. Ce n'est pas un talisman, la croix. Ce n'est pas un gris-gris. Ce n'est pas un porte-bonheur. Quand la Bible parle de la croix, elle parle de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et la Bible nous dit que Christ est mort pour nos péchés. il les a pris à sa charge, il les a pris, si je puis dire, à son compte, afin que la condamnation que nous méritions l'atteigne lui, l'atteigne à notre place, et qu'ainsi, par la foi en lui, nous obtenions le pardon, nous obtenions le salut. Mais c'est grand, ça, vous vous rendez compte? Moi, là, devant vous, et vous, c'est pareil, hein? Je mérite l'enfer, vous savez ça? Je mérite que Dieu me prenne et m'expédie dans les tourments infernaux, dans ce lieu de ténèbres, de remords, de tourments incessants, extrêmes. C'est cela que je mérite. C'est le sort qui aurait dû être le mien. C'est la sanction divine que Dieu aurait dû m'appliquer dans sa justice et sa sainteté. C'est ce que je mérite. Et le peu de bien que j'ai pu faire dans ma vie ne pourra jamais compenser le mal que j'ai commis. Pécheur je suis, et je suis voué à la condamnation, à l'enfer, au rejet de Dieu, à être expulsé, me jeter dans les tourments infernaux. C'est ce que nous méritons tous, même le meilleur d'entre nous. Mais parce que Christ a donné sa vie sur la croix, et que j'ai mis un jour, et vous pouvez le faire aussi, vous l'avez fait, ma foi en Christ, j'échappe à ce sort tragique. Dieu me fait grâce. Je ne mérite pas, parce que la grâce, par définition, c'est gratuit. Un jour, quelqu'un me disait qu'il avait invité un homme à sa table. C'était un couple, ils avaient invité un ami, quelqu'un à leur table. Et quand l'ami en question est parti, ils se sont aperçus que sous l'assiette, il avait glissé un billet. Dites, mais ça ne se fait pas, ça. Quand on est invité par quelqu'un à partager un repas, c'est un cadeau. On accueille la personne avec joie, avec bonheur, sinon on ne l'invite pas. Si on l'invite, en principe, on le fait de tout cœur. Mais lui, vous voyez, il était tellement bizarre, on va le dire comme ça, que sous l'assiette, il avait mis un billet. Il y a des gens qui voudraient mettre un billet sous l'assiette de Dieu. Mes amis, la miséricorde du Seigneur, le pardon qu'il nous accorde, il est gratuit. Il est gratuit parce que quelqu'un a payé pour nous. C'est Jésus. Il est mort en rançon pour tous. Et c'est pour cela, parce que Jésus savait que quelques 3 ans et quelques après avoir prononcé ces paroles, il le savait, il allait donner de la vie, sa vie sur une croix. La croix ne l'a pas surprise. Ce n'était pas un accident de parcours dans la vie de Jésus. Ce n'était pas un imprévu. Non, la Bible dit que de toute éternité, il était l'agneau prédestiné. De toute éternité, avant même que le monde ne soit créé. Vous vous rendez compte? Dieu avait prévu que son propre Fils vienne un jour sous forme humaine sur la terre des hommes, qu'il se charge du péché des hommes et qu'il meure à leur place sur une croix pour que par son sacrifice leur péché soit pardonné. Ça veut dire que de toute éternité, vous avez eu votre place dans le plan de Dieu. Avant même, bien avant que vous soyez conçus dans le sein de votre mère, bien avant même que Dieu n'ait commencé à créer l'univers, quand il n'y avait rien, sinon Dieu lui-même, alors qu'il n'y avait même pas les anges, que rien de rien n'existait, si ce n'est Dieu lui-même. Dieu vous connaissait déjà, c'est pas formidable ça? Moi quand j'y pense, ça me donne le vertige. Hein? De toute éternité. Voilà. De toute éternité, Dieu connaissait Eugène, Dieu connaissait Hélène, Dieu connaissait Véronique. De toute éternité, vous avez été élu en Jésus-Christ. Et autant marqué, Dieu a dit, c'est le moment. Et c'est ainsi que miraculeusement, Christ a été conçu par la vertu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, au moment fixé par Dieu, à l'endroit fixé par Dieu, au temps marqué de Dieu, il est né dans la crèche de Bethléem. Il a vécu, il a grandi à Nazareth comme un enfant ordinaire et extraordinaire en même temps. Vous avez réfléchi à ça? Dieu qui se fait homme, dites, Dieu qui se fait bébé. C'est fou ça. Dieu qui se fait enfant. Hein, parce que il a grandi. Dieu qui se fait adolescent, jeune homme. Et puis, pendant une bonne partie de sa vie, Jésus, il a eu une vie ordinaire dans ce village, ce bled perdu de Nazareth. Il a travaillé de ses mains, il était charpentier. Il était sur les chantiers, il se levait tôt le matin pour aller au travail, se couchait tard le soir. Il a connu la fatigue, il a su ce que c'était que de gagner son pain à la sueur de son front, etc. Et puis ensuite, il a été baptisé par Jean-Baptiste, le prophète qui ne voulait pas le baptiser. On lui dit, mais malheureux, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui a dit, t'inquiète pas, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jésus a été baptisé. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. La voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et à partir de là, Jésus a commencé son ministère de guérison, de miracle. Ça n'a pas duré très longtemps, 3 ans, 3 ans et demi. Et puis, comme il l'avait prévu, comme Dieu l'avait prévu, rappelez-vous, de toute éternité, on est venu l'arrêter, l'accuser faussement, le condamner injustement et le faire mourir sur une croix. Mais ça faisait partie du plan de Dieu pour nous sauver. Il fallait que ce soit comme ça. Il fallait que le péché reçoive une juste sanction. Dieu ne peut pas, dans sa sainteté, laisser le péché impuni. Alors pour que le pécheur soit sauvé, qu'il soit épargné, Dieu a fait en sorte que son propre fils subisse à la place de chaque pécheur le châtiment que le pécheur mérite pour que le pécheur en question puisse être épargné. Il est mort pour les péchés que Noémie a commis. Il est mort pour les péchés que Alex a commis. Il est mort pour le péché que chacun de nous avons commis. Ton péché, il est sur la croix. Et quand tu fais confiance, Dieu ne me demande pas plus. Quand tu crois qu'il a fait ça pour moi, que Jésus n'est pas mort simplement il y a 2000 ans parce qu'il y a une affaire qui s'est mal passée, parce que les Juifs ont voulu se débarrasser de lui, parce que Judas l'a trahi, parce que... Non, il est mort pour moi. Quand tu le crois, tu reçois la grâce. Tu es pardonné. Fardeau de malédiction, de condamnation est enlevé. C'est extraordinaire la grâce. La grâce, c'est ne pas recevoir ce qu'on mérite et recevoir ce qu'on ne mérite pas. C'est ça la grâce. Autrefois, lorsqu'il y avait encore en France la peine de mort, qu'un tribunal, une cour d'assises, avait décidé qu'un criminel devait être décapité, une seule chose pouvait le sauver. Le président de la République, lui seul, pouvait exercer ce que l'on appelait le droit de grâce. Ça se passait comme ça. L'avocat du condamné, alors qu'il était déjà condamné, alors que la sentence de mort avait déjà été prononcée par le tribunal, l'avocat du prisonnier se rendait dans le bureau du président et là, il plaidait sa cause. Et lorsqu'il avait terminé son discours, eh bien, le président, en son âme et conscience, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, prenait sa décision. Condamné ou gracié. Vous imaginez quelqu'un qui attend la mort dans un cachot. Et quand on vient lui dire, Monsieur le Président de la République a exercé à votre égard le droit de grâce. Vous ne mourrez pas. Eh bien, mes amis, Dieu a exercé à notre égard le droit de grâce. Et il peut nous dire ce que Jésus a dit à Pierre, ne crains pas. Et vous avez vu la conclusion, hein? Voilà. Ils laissèrent tout et le suivirent. Moi, je suis émerveillé de ça. Ils n'ont pas dit, écoutez, on va consulter la famille, hein? On va faire une réunion familiale, voilà. Il va y avoir belle-maman, là, qui vit à la maison, mon épouse, les collègues. On va voir ce qu'on va faire, on te donnera ensuite notre décision. Non, sur le champ, ils laissèrent tout. Ils ramenèrent les barques à terre, dites. Ils ont tout planté là et ils ont suivi Jésus sur les routes poussiéreuses du pays d'Israël, sans savoir encore trop où ça allait les mener. Ils savaient seulement que cet homme n'était pas ordinaire. Il était le Fils de Dieu, le Christ, le Sauveur. Et ils voulaient s'attacher à lui. Alors Dieu ne nous demande pas aujourd'hui d'abandonner notre profession, mais notre famille. Ça, c'était leur appel spécifique, particulier. Et Dieu nous demande de le suivre. Suivre Jésus. Est-ce que vous suivez Jésus? Suivre Jésus, ça veut dire quoi? Sur mon petit papier, j'ai marqué faire de Jésus notre maître. Renoncer à notre vie passée, en ce temps où nous nous soucions fort peu d'accomplir la volonté de Dieu, pour s'engager désormais dans une vie nouvelle. Une vie de disciple. C'est quoi un disciple? Jésus l'a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, il dit à ses apôtres, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Mais attention, ça ne s'arrête pas là, Jésus complète en disant, « Et enseignez-leur à observer, c'est-à-dire à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » C'est ça un disciple. C'est quelqu'un qui colle sa vie, si je peux m'exprimer ainsi, à la vie de Jésus, et qui dit, Seigneur, je veux te suivre, je veux m'attacher à toi, et je veux apprendre à vivre selon ce que tu as prescrit dans ta parole. Je ne veux plus faire ma volonté, j'ai envie de dire mes quatre volontés, mais t'obéir, te servir, t'aimer. C'est un choix, ça. C'est une ligne de vie, une direction qu'on prend. C'est un engagement solennel qui doit être définitif. Et des fois, parce qu'on est humain, de ce chemin étroit, parce que Jésus dit qu'il est étroit, ça nous arrive de dévier un petit peu. Mais la parole, elle est là pour nous dire, hey, où tu vas là? Oh Seigneur, pardonne-moi, je veux me recentrer. Et je veux marcher dans le bon chemin. Et si nous persistons dans cette conduite, dans cette nouvelle voie que nous avons prise, un jour, il nous recevra dans son royaume. Amen. Alléluia. Devenons chaque jour un peu plus des disciples de Jésus qui s'attachent à leur maître. Qui l'aiment, qui le servent, qui veulent conformer leur vie aux exigences de sa volonté, qui, rappelons-le, je l'ai dit tout à l'heure, est bonne, agréable et parfaite. Il veut notre bien, le meilleur. Et dans notre faiblesse d'homme, il veut nous aider à avancer sur le bon chemin. Oh, le Seigneur est fidèle, vous savez, et il est patient. En tout cas, il a été bon avec moi. Depuis toutes ces années passées où on marche avec lui, le Seigneur a été patient, le Seigneur a été bon. Et chaque fois qu'il y a eu une tendance à dévier, il a su parler à notre cœur, nous persuader de revenir sur le bon chemin, de nous montrer que nous étions embarqués dans une mauvaise direction. Et lorsque nous avons ouvert les yeux, nous avons dit, Seigneur, pardonne-moi. Et il nous a fait grâce encore et encore. Et un jour viendra où il nous accueillera. Amen. Et où il nous dira, entre dans mon royaume éternel. C'est bien, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle disciple, tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. le ciel, la gloire, je peine à imaginer, moi, ce que ça peut représenter, les bénédictions célestes, vous. Vous pensez à ça des fois? Ça vous arrive? Comment ce sera au ciel? Hein? Comment ce sera au ciel? Voilà. Ma femme me dit, tu iras dans ton coin et moi dans le mien. Moi je me reposerai, toi tu travailleras. Hein? Parce qu'on n'a peut-être pas toujours les mêmes objectifs. Mais ce sera formidable. Ça dépassera tout ce que nous pouvons imaginer. Vous savez, des fois dans la vie, on vit ça vous est arrivé à tous, ça, des jours où tout roule, tout marche, où c'est bien, où on a eu du bonheur, du plaisir. Et on se dit intérieurement, je voudrais que ce soit toujours comme ça. Vous n'avez jamais vu ça. Eh bien, le ciel, c'est ça, mais multiplié par 10 000 fois mieux, 100 000 fois mieux, 1 000 000 fois mieux. Et ça durera toujours. Alors ça vaut la peine. Ça vaut la peine de mener une vie de disciple. Il laissèrent tout et le suivirent. Amen. On prie le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.